Merci beaucoup d'être branché à l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis maintenant en compagnie de Nicolas Barral. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez aujourd'hui nous parler de la bande dessinée qui sort demain, L'intranquille Monsieur Pessoa, aux éditions d'Argo. Une bande dessinée bien ficelée, pleine d'ivresse et de problèmes de foi, imprégnée de mélancolie et de fumée de tabac, dans laquelle on accompagne les dernières heures de vie de Fernando Pessoa, lui qui décède un 30 novembre, et parallèlement à la lente disparition du poète, on accompagne un jeune pigiste, un jeune écrivain, Simão Cerdeira, qui est en charge d'écrire la nécrologie de Pessoa. Ma première question sera très simple, pourquoi et comment a surgi l'envie de ce travail sur Fernando Pessoa ?
Alors il faut que je vous fasse une confidence, j'ai épousé une portugaise, enfin une portugaise d'origine, car elle est née en France, et alors dans le trousseau de mariage, il y avait un certain nombre de livres qu'elle m'a fait découvrir, d'auteurs qu'elle m'a fait découvrir, et parmi lesquels, évidemment, il y avait Pessoa. Et nous allons régulièrement en vacances au Portugal, avec un passage obligé, évidemment, à Lisbonne. Et moi, j'ai pour habitude de flâner à la librairie Bertrand, que vous connaissez peut-être, dans la rue Garrett. Et je suis tombé sur un livre dont le titre était « Pessoa, image d'une vie ». Et sur la couverture du livre, il y avait donc le portrait du poète. Et son regard m'a interpellé. J'y ai vu une mélancolie qui m'a semblé familière, en fait. Enfin, il y a eu un échange de regards entre nous. C'est peut-être un peu ridicule de le présenter comme ça. Et donc, j'ai creusé. J'ai eu envie de comprendre ce qu'il y avait derrière ce regard et de vérifier si mon hypothèse, qui était que Pessoa et moi, on avait des choses en commun. Voilà, et donc comme mon travail, mon métier est la bande dessinée, eh bien évidemment j'ai imaginé le début d'une trame. Ça a été un long processus où il a fallu que je m'imprègne de l'œuvre de Pessoa, et puis l'histoire s'est mise en place.
Il y a 3 ans, vous aviez déjà publié un album. C'était votre premier travail seul sur un air de fado, l'histoire d'un médecin de bonne famille, Fernando Pais, qui essaye de manière détachée d'exister dans le Portugal salazariste. Vous aviez attendu un certain temps avant de vous lancer sérieusement dans la préparation de Sur un air de fado, et vous aviez dit: c'est une déclaration d'amour à la fois à ma femme et à son pays. Le cœur de ma démarche, c'est aussi de parler aux gens qui connaissent le Portugal et de séduire ceux qui ne connaissent pas son histoire. Quelle a été l'intention donc avec ce nouvel album qui sort demain, L'intranquille Monsieur Pessoa?
Alors en fait, j'ai beaucoup travaillé en tant que dessinateur avec des scénaristes, donc je m'étais jamais tellement posé cette question avant de me mettre à écrire mes propres histoires, mais je me suis rendu compte avec Sur un air de fado et avec L'intranquille Monsieur Pessoa que je faisais des livres pour comprendre, en fait, c'est-à-dire la dictature, c'était quelque chose évidemment qui me faisait peur. Je savais que le Portugal avait connu 48 ans de dictature, et je me suis posé la question de savoir comment on vivait ça et comment je vivrais ça si j'étais confronté au problème. Est-ce que je serais un héros? Est-ce que je serais un salaud? Enfin voilà, c'est finalement pour comprendre les choses et les expliquer un peu à hauteur d'homme que j'ai fait sur un air de fado. Et en fait, pour Pessoa, c'est un peu la même démarche, c'est-à-dire que j'ai lu beaucoup, amassé des notes, mené une forme d'enquête, en fait, pour comprendre qui était ce personnage, et j'ai mis tout ça en forme, et ça a donné un livre.
Et alors, qu'avez-vous compris de Fernando Pessoa?
Ah ben là, en fait, j'ai compris que c'était un personnage complexe. Et c'était toute la difficulté, d'ailleurs, d'arriver à produire un livre qui soit tout public. C'est-à-dire, je ne voulais pas... D'abord, je n'ai pas de bagages universitaires, donc je ne pouvais pas me lancer dans une exégèse très, très, très précise de l'œuvre de Pessoa. Tout ce que je pouvais faire, c'est par petites touches, essayer de rassembler un certain nombre de pièces qui formaient un puzzle, qui soit à la fois documenté, enfin relativement objectif, on va dire. D'ailleurs, le personnage de Simão Cerdeira, dont vous parlez, je le prononce beaucoup moins bien que vous, Cerdeira. Le personnage de Simão Cerdeira, il est là pour ça, il est là pour fournir au lecteur un certain nombre de témoignages objectifs, enfin, témoignages subjectifs qui, rassemblés entre eux, finissent par dresser un portrait assez juste, je pense, de qui était Pessoa. Je fais témoigner ses collègues de bureau, je fais témoigner un ministre de la culture Antonio Ferro, qui était en fait un compagnon de route de Pessoa dans sa jeunesse. Mm-hmm. Je fais témoigner sa sœur. Enfin voilà. Donc le portrait se petit à petit, je pense, prend forme. Et à côté de ça, je voulais aussi montrer Pessoa donc dans ses derniers jours effectivement d'existence. Et là, c'était pour moi un travail d'imprégnation, c'est-à-dire que en fait, la question que je me pose en tant qu'auteur, c'est de savoir pourquoi j'écris. Qu'est-ce qui fait que des gens écrivent? C'est assez mystérieux, en fait. Et donc, c'est là où finalement le on va pas parler de ressemblance, mais enfin, en tout cas, le compagnonnage existe peut-être avec Pessoa, c'est qu'on exerce un peu le même métier, qui est celui d'écrire. Et alors, j'ai effectivement, pu vérifier un certain nombre d'hypothèses alors je pense qu'on écrit en tout cas je vais pas parler à la place de Pessoa hein, mais moi j'écris parce que je me sens mieux dans la fiction finalement que dans la réalité. Peut-être que j'écris aussi parce que cela me permet de me cacher derrière des personnages, enfin de dire des choses en utilisant des personnages pour le faire à ma place. Et c'est un peu ce que Pessoa a fait avec les hétéronymes, c'est-à-dire qu'il s'est inventé un certain nombre de doubles qui lui permettaient de développer tout ce qu'il avait à dire, un peu à la manière c'est une manie quand même qui l'a poussé à inventer 72 personnages, hein. Je me suis posé la question qu'à peu près tout le monde se pose à son sujet, c'est-à-dire s'agissait-il d'une pathologie en fait. Et en fait, je ne crois pas. Je pense que c'était un procédé littéraire. Et il disait lui-même d'ailleurs dans une des lettres dont on a trace, enfin dans un courrier adressé à un confrère, qui lui demandait justement de se justifier sur la création des hétéronymes. Et il expliquait qu'en fait, il faisait la même chose que Shakespeare avec le roi Lear, c'est-à-dire derrière le roi Lear, il y a Shakespeare qui parle, mais pas tout à fait. Le roi Lear, le personnage du roi Lear finit par avoir son propre mot à dire. Donc c'est ça que j'ai compris par un long travail d'imprégnation. Puis après, le dessinateur est allé sur place, il a pris des photos pour essayer de restituer la ville de Lisbonne, qui est une ville que j'ai appris à aimer. Et j'ai marché dans les pas de Pessoa, je suis allé au cimetière des plaisirs. J'ai essayé de par petites touches également, mais par un vrai travail d'imprégnation, de donner ma vision de Pessoa.
Et elle vous parle, cette célèbre phrase de Pessoa, la littérature est la preuve que la vie ne suffit pas.
Je crois que c'est assez bien résumé. C'est-à-dire, on peut se demander effectivement pourquoi tant de gens écrivent et puis aussi tant d'autres lisent. En fait, les gens qui n'ont pas la capacité, le temps aussi, en tout cas ceux qui ne savent pas retranscrire par leurs émotions, d'une certaine manière lisent pour que d'autres, qu'on nomme des écrivains, le fassent à leur place. Est-ce que c'est un don, finalement, d'écrire? Oui, probablement, mais c'est aussi un peu une malédiction, c'est-à-dire que Pessoa, toute sa vie, a constaté une forme d'impasse, c'est-à-dire qu'il à chaque fois qu'il... il n'arrivait pas à profiter de l'instant présent. Il était assailli à chaque moment de son existence de tout un tas de pensées parasites. Enfin, il avait un esprit analytique très très aiguisé, probablement aussi une hypersensibilité. Probablement aussi souffrait-il de d'une forme de mélancolie là pour le coup pathologique, c'est-à-dire que il était probablement maniaco-dépressif. Et donc toute cette sensibilité a donné lieu à une œuvre gigantesque. Et à l'intérieur du livre de l'intranquillité, dans lequel je me suis beaucoup reconnu, on trouve effectivement la trace de tout ce que j'explique, c'est-à-dire toutes ces impressions saisies au vol qui fournissent pas mal de clés sur Pessoa, mais qui, je crois, pour les lecteurs, fournissent aussi des clés à la compréhension du monde.
Et ce livre de l'intranquillité qui a inspiré le titre de votre bande dessinée qui sort donc demain aux éditions d'Argo, L'intranquille, Monsieur Pessoa, mon invité est Nicolas Barral. Nous allons pour le moment marquer une courte pause. Merci beaucoup d'être branché à l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis toujours en compagnie de Nicolas Barral qui vient nous présenter sa nouvelle bande dessinée. Elle sort demain aux éditions d'Argo. Elle s'appelle L'intranquille Monsieur Pessoa. Une bande dessinée dans laquelle nous accompagnons un jeune pigiste, un jeune écrivain, Simon Cerdeira, qui est lui-même sur les traces de Fernando Pessoa en charge d'écrire sa nécrologie. Finalement, Simon est votre double littéraire, Nicolas.
Mais exactement.
Il reproduit très fidèlement votre geste.
Oui, en fait... Cette question effectivement est intéressante, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à rassembler toutes les pièces du puzzle dont je parlais, je me suis demandé quel angle j'allais choisir, et en fait me rendant compte que j'étais en train de mener une enquête, je me suis dit que finalement j'allais choisir comme personnage un enquêteur. Mmh. Et qui dit enquêteur dit journaliste, et je voulais aussi que mon personnage soit en quelque sorte un candide, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose de Pessoa. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi un jeune homme, pigiste effectivement, mais aussi aspirant plumitif, c'est-à-dire qu'il veut écrire, il est lui-même tenaillé par l'envie de devenir écrivain. Donc voilà comment est né Simon Cerdeira.
Simon Cerdeira qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'acteur Adrien Brody.
Vous avez remarqué alors? Oui, alors ça c'est quelque chose aussi de c'est un peu toujours comme ça que je procède, c'est-à-dire que ça peut être vécu comme une forme de folie des grandeurs d'ailleurs, mais quand on est dessinateur de bande dessinée, on a un peu tous les pouvoirs. Et donc je procède à un casting. Mais c'est très utile parce que quand on a fini la phase d'écriture proprement dite, hein, moi je sépare strictement les deux choses, hein, le scénario et le dessin. Mmh. J'ai des collègues qui mélangent un peu les deux, qui écrivent en dessinant ou qui dessinent en écrivant. Moi, je sépare les deux. Et alors, il y a toujours un moment un peu de trouble, c'est-à-dire que j'ai commencé évidemment à dessiner et j'ai mis pratiquement 30 pages en fait à quitter le fantasme que j'avais de mon histoire, le fantasme que j'avais de mes personnages, pour finir par être satisfait de ce que je produisais, et pour m'y aider en fait choisir comme ça un casting un peu de rêve, hein, Adrien Brody, c'est pas rien. Mm-hmm. Et ben c'est un moyen quand même de prendre appui sur quelque chose, de ne pas partir de zéro. Et puis il y a un autre intérêt à raisonner comme ça. Je l'avais fait aussi avec sur un air de fado. Mon personnage, je tournais un petit peu autour. Au départ, j'avais pensé à Robert Mitchum, mais je me disais bon, il est pas assez latino quand même, pas assez brun, pas assez basané. Et donc j'ai fini par jeter mon dévolu sur Benicio del Toro. Et en fait, ça a aussi un intérêt qui est de se renouveler, c'est-à-dire que au fil du temps, j'ai fini par acquérir la capacité à inventer les personnages, à les créer. Je ne pensais pas systématiquement de cette manière-là. Les personnages de second plan, je les crée un peu de toutes pièces. Mais le risque, quand on ne revient jamais au réel, alors ce sont des personnages, ce sont des acteurs, mais ça pourrait être aussi des gens de mon entourage. Hein. Je pourrais tout à fait décider d'intégrer dans mon histoire les gens qui m'entourent. Ben l'intérêt c'est de se renouveler, sinon on se répète, on finit par produire toujours un peu les mêmes visages. Et voilà pourquoi Adrien Brody, et puis parce que je l'aime beaucoup, je l'ai vu dans Le Pianiste, et j'ai adoré.
C'est vraiment le Adrien Brody du Pianiste, oui, que j'ai reconnu dans Simon.
Voilà, alors c'est un personnage effectivement un peu en recherche de lui-même, assez drôle, assez touchant, je trouve aussi. Enfin, mm-hmm. il y a une forme de maladresse aussi dans sa manière d'aborder les choses. Et ça me semblait, en tout cas, sa candeur, sa naïveté me semblait vraiment adaptée au récit que je voulais mener, où je demandais finalement au lecteur de s'identifier à un personnage qui avancerait finalement au même rythme que lui. Dans sa découverte de Pessoa.
Et la candeur, la naïveté, la légèreté est aussi celle du papillon, qui a une certaine importance dans les dessins de cette bande dessinée.
Oui, le papillon. Effectivement, je voulais donner une dimension un peu fantastique à l'histoire.
Onirique, oui.
Et il se trouve qu'en lisant Pessoa, on trouve trace des papillons. Il y a une phrase extraite du livre de l'intranquillité qui m'a beaucoup marqué. Je vais me permettre de la citer en espérant ne pas l'écorcher. Pessoa dit « Mon destin est peut-être de toute éternité d'être comptable. Et la littérature et la poésie ne sont peut-être qu'un papillon se posant sur mon front et qui me rend d'autant plus ridicule que sa beauté est plus éclatante. Voilà. Donc c'était une raison pour moi suffisante de faire figurer les papillons qui, à mes yeux aussi, sont une forme de métaphore des hétéronymes.
Et quels sont les papillons de votre vie, Nicolas Barral?
Les papillons de ma vie, Les papillons de ma vie, c'est probablement ma famille.
Mm-hmm.
Hein, ma fille, qui est à mes côtés, d'ailleurs, au moment où je parle, qui me surveille de près, qui a fait les couleurs avec moi de l'album. Nous avions déjà aussi procédé de cette manière-là pour Sur un air de fado. Alors c'était très pratique parce que je l'avais sous la main. Je pouvais en direct regarder son travail. Elle pouvait elle-même me solliciter, me poser les questions qu'elle souhaitait. Parce que décrypter le dessin, c'est pas toujours simple. Et donc voilà, je pouvais l'aider. Et elle m'a, en plus de m'apporter son concours sur les couleurs, elle était la première lectrice. Et donc, c'était très important pour moi de vérifier, comme ça, au fur et à mesure, que j'étais compréhensible, que le récit était fluide. Et puis elle veillait effectivement aussi à la cohérence, c'est-à-dire qu'il y a les personnages, on en parlait tout à l'heure, finissent un peu par échapper à leur créateur et ne peuvent pas, ne peuvent pas tout dire. En tout cas, le créateur, le scénariste que je suis, ne peut pas tout leur faire dire. Il y a un moment où il développe une cohérence. Et Marie était, en tant que première lectrice, garante de la cohérence de ce que je racontais. Il peut arriver à un scénariste ou un dialoguiste de vouloir faire le malin, de vouloir faire un bon mot.
Mmh.
Et bien, effectivement, des fois, il faut se retenir, il faut savoir se retenir de cette tentation pour rester fidèle au personnage.
Cette bande dessinée, effectivement, L'Intranquille Monsieur Pessoa aux éditions d'Argo, qui sort demain, le vendredi 20 septembre, est effectivement une aventure familiale. Elle vous a donc été inspirée par le pays d'origine de votre femme. Les
oui.
couleurs sont à la charge de votre fille, Marie Barral, ici, à vos côtés. C'est donc une aventure tout à fait intime.
On dirait bien, en fait. J'y avais pas vraiment pensé, mais on dirait bien. Oui, c'est la magie du mélange qui est à l'œuvre là, c'est-à-dire effectivement au fil du temps il semblerait que je sois devenu un Portugais d'adoption à un détail près, comme vous avez pu vous en apercevoir, c'est que je ne maîtrise pas tout à fait bien le portugais. Je le comprends pas si mal.
Mm-hmm.
J'ai appris en tout cas à bien le lire, parce que les documents dont je me sers parfois sont en portugais. J'ai dû, par exemple, traduire une interview que Pessoa avait donnée au Diario de Lisboa. Et c'était pas une mince affaire, mais c'était nécessaire. Et pour ce qui est de Sur un air de fado, j'avais été mis sur la voie des livres d'Irène Pimentel. Alors, tous ces livres sur la PIDE et l'histoire de Salazar étaient en portugais. Donc, je ne me débrouille pas si mal, mais j'ai ce péché quand même de ne pas avoir su depuis le temps être capable d'articuler des phrases à peu près correctes, probablement parce que je m'interdis de baragouiner le portugais. Je voudrais le parler correctement.
Effectivement, vos deux albums que vous citiez là, L'Intranquille Monsieur Pessoa, qui sort donc demain aux éditions d'Argo, et Sur un air de fado, sont tous les deux liés au Portugal.
Eh ben oui, et c'est peut-être pas fini d'ailleurs.
Peut-être que le prochain projet sera...
Tout le monde me dit, tous les gens qui me parlent, que je connais, qui suivent mon travail, mm-hmm. les collègues en particulier, me disent, bon, un, deux, il faut une trilogie. Alors c'est pas interdit d'y penser, oui.
Quel rapport entretenez-vous à la création artistique, Nicolas Barral?
Un rapport le plus quotidien possible.
Mm-hmm.
Moi, je pense que j'ai choisi ce métier pas par hasard, quoi. C'est-à-dire que ça me correspondait assez bien. C'est un métier solitaire. C'est un métier qui vous met à l'abri d'avoir à rendre des comptes à des collègues, à un chef de service.
Puis quand on travaille avec sa fille, c'est encore mieux.
Alors ça, c'était pas prévu à l'avance. Au moment où j'ai commencé, je savais même pas que j'aurais une fille, hein, ou un fils, ou même une femme. C'est une décision qu'on prend à l'adolescence, pour ce qui me concerne.
Mm-hmm.
Et donc, c'est un travail qui ne vous quitte jamais, c'est ça l'inconvénient. Les avantages, c'est, je les ai décrits, c'est que on n'a pas trop de comptes à rendre, un peu à son éditeur quand même de temps en temps, mais sinon c'est assez calme. Mais l'inconvénient, c'est qu'on y pense tout le temps. Donc ça peut être un peu pénible pour l'entourage. Il arrive que je m'entends dire parfois, mais qu'est-ce qu'il y a, t'as l'air fâché. Mais non, en fait, je suis pas du tout fâché, mais j'ai réfléchi. Alors j'ai un langage corporel un peu comme ça, un peu ambigu, un peu qui peut prêter à confusion. Mais c'est ça, effectivement. Tant qu'on n'a pas réglé un problème de narration, trouvé une solution scénaristique, et ben on cherche quoi. Et alors j'irai pas jusqu'à dire que je me relève la nuit, quoique ça peut arriver effectivement. Enfin, moi je trouve ça merveilleux quoi. En fait, ça me permet de comprendre beaucoup de choses. D'abord faire un album pour comprendre la dictature ou pour s'approcher d'une certaine vérité concernant Pessoa, c'est une chance quoi d'avoir d'être en capacité de le faire. Et j'espère bien continuer.
Vous pourriez écrire sans dessiner, abandonner la bande dessinée et écrire
un
roman.
C'est
par
une excellente question. Je pense que je pourrais écrire sans dessiner. Par contre, je pense que je pourrais pas trop dessiner sans avoir le support d'une histoire. J'ai des collègues qui passent leur temps à dessiner. Moi, si j'ai pas une histoire à raconter, je dois confesser ici que je peux rester tout à fait sans dessiner et ça ne me tourmente pas. Je culpabilise un tout petit peu. C'est quand même une gymnastique, le dessin. Il vaut mieux ne pas rester trop longtemps sans l'exercer. Mais je me rends compte, enfin, à l'expérience, que si je n'ai pas d'histoire à raconter, le dessin ne me manque pas.
Dans votre trousseau de mariage, pour vous citer, vous disiez qu'il y avait plusieurs livres. Des livres de Pessoa, donc j'imagine, vous l'avez dit vous-même, et un livre d'Antonio Tabucchi, Pereira Prétend.
Oui, Pereira Prétend, et aussi d'ailleurs une malle pleine de gens, qui m'a été d'un secours précieux pour
bien sûr
aborder Pessoa. Oui, Pereira Prétend, ça c'est un livre que ma femme m'a conseillé de lire, et qui a effectivement été à la source de Sur un air de fado. Le personnage mis en scène par Tabucchi, dont le nom m'échappe, je vous prie de m'en excuser, je crois qu'il était cruciverbiste dans je l'ai lu il y a longtemps, hein. Et ça se passe dans les années 30, si je ne m'abuse, et donc au début de la dictature de Salazar, et en fait c'est un personnage qui ne se pose pas beaucoup de questions, qui dans son coin, il fait ses petits mots croisés pour son petit journal, et la situation politique, ça lui passe un peu au-dessus de la tête. Et il est veuf aussi, donc il est un peu replié sur lui-même. Il nourrit le souvenir de sa défunte épouse. Et puis il va être confronté à un moment donné à la dictature. Et donc toute la réflexion que développe Tabucchi m'a remué à l'époque et ça m'a donné envie de me poser à moi-même cette question. Et le livre a été la réponse à cette question.
Il y a des échos d'ailleurs entre le personnage de Tabucchi et Fernando Pessoa lui-même.
Il va falloir que je fasse un livre sur Tabucchi parce que je connais pas bien sa vie. Ce que je sais, c'est qu'il parlait. Alors lui, pour le coup, parlait parfaitement le portugais. Il écrivait même. Donc j'ai encore une marge de progression.
Italien, mais effectivement passionné par la lusophonie.
Oui. Oui. Enfin, je pense que s'il a été fasciné par Pessoa, c'était certainement pas par hasard. Et peut-être était-il lui-même à la recherche d'une réponse à cette question, pourquoi est-ce que j'écris? Et Pessoa fournit une matière riche pour répondre à cette question.
Et nous allons pour le moment marquer une courte pause. Merci d'être branché à l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis toujours avec Nicolas Barral. Il vient nous parler de sa nouvelle bande dessinée. Elle sort demain aux éditions d'Argo. L'intranquille Monsieur Pessoa. Une bande dessinée dans laquelle on peut voir Lisbonne. Ça fait plaisir de voir Lisbonne ainsi dessinée. Je pense aux planches avec cette scène qui se passe dans le couvent des Carmes où Pessoa va à la rencontre de ses hétéronymes. Je n'en dirai pas plus. Donc la Lisbonne des années 30 est ici tout à fait bien représentée dans toute sa modernité. Ici, l'album s'ouvre avec l'ascenseur Santa Justa et se termine avec un ballon dans le ciel, en écho à ces papillons qui disparaissent et l'arrivée de la modernité. Nicolas Barral, êtes-vous d'accord avec cette phrase de Pessoa, ou du moins qu'en pensez-vous, je la cite, « N'être qu'un est une prison ».
Oui, bah écoutez, c'est effectivement une question assez enfin c'est une affirmation qui fait écho à une question qu'il se posait à lui-même, qui était combien suis-je? Et en fait, c'est une question, je pense que c'est une question qu'on peut tous se poser. Si je fais une petite introspection, je pense que je ne suis pas aujourd'hui celui que j'étais hier, enfin en tout cas pas tout à fait. Et je pense que tout à l'heure, enfin ce que j'ai pensé, j'affirme ici devant vous sera peut-être déjà un peu périmé. Voilà, je prends cette formule comme une forme d'invitation à se libérer de la nécessité d'être toujours en cohérence avec soi-même. C'est épuisant, ça bloque parfois les évolutions qui sont nécessaires dans la vie. On peut penser par exemple à l'héritage familial, c'est un thème que j'ai un peu développé dans Sur un air de fado. Les gens qui s'interdisent de trahir, ou qui ont le sentiment de trahir leur famille en modifiant ne serait-ce que légèrement la trajectoire qui avait été dessiné pour eux, probablement s'expose à une souffrance qui n'est pas forcément nécessaire. Donc, j'ai le sentiment qu'il est nécessaire d'évoluer, de faire évoluer sa pensée. Ce n'est pas forcément trahir. C'est fatigant parce qu'effectivement, ça suppose une mise à jour permanente de ce qu'on pense sur le monde, sur la vie, sur les gens qui nous entourent. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète cette phrase. On s'éloigne un peu des hétéronymes et du fait que pour Pessoa, il s'agissait de d'étendre au maximum son terrain de jeu. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y avait probablement cette volonté de dépassement de soi qu'il avait d'ailleurs, si j'ai bien lu, théorisé au plan politique. Mmh. C'était à sa manière un précurseur de l'Europe. Il considérait que le Portugal était trop petit
et même dans un certain dépassement de l'Europe, il louait le Quinte Empire. Enfin
voilà. Et alors évidemment, il plaçait le Portugal au centre quand même, hein, de sa vision de dépassement. Voilà. Donc c'est comme ça que moi je donne du sens à sa phrase.
Il était d'autant plus libre, Pessoa, dans sa pluralité, justement.
Je crois. Je crois. Alors après, il s'est peut-être un peu perdu. C'est quand même bien de savoir un peu où on habite de temps en temps. Je parlais de mise à jour tout à l'heure, c'est ça. Il ne s'agit pas de se perdre. Il s'agit simplement de laisser s'agréger à ce qu'on pense, à sa vision du monde, tous les éléments qui viennent l'enrichir.
Quelle vie va amener cette bande dessinée dorénavant? Elle sort demain, mais peut-être est-il déjà des signatures ou des rencontres de prévues?
Oui, le carnet de balles est déjà bien plein. Dès ce soir d'ailleurs, il y a une petite avant-première qui est organisée, mais demain je serai à la librairie Sans Eau, dans le 14e à Paris. Samedi à Montreuil, à la librairie Storybull. Pour la suite, ma mémoire va me manquer. Enfin, il y a encore quelques autres dates parisiennes. Je serai à Bulle-en-Tête samedi prochain. Ah oui, la librairie portugaise. J'allais oublier la librairie portugaise. Mercredi 25 à 16h. Librairie portugaise, elle se trouve près du Panthéon. Je me souviens plus de l'adresse. Voilà. Alors, on va s'arrêter là parce que je vais pas. Mais voilà. Donc, il y a quelques dates de prévues et la province n'est pas oubliée. Rassurez-vous. Voilà.
Et cette bande dessinée s'appelle donc L'Intranquille Monsieur Pessoa, c'est aux éditions Dargo, elle est signée Nicolas Barral dans le texte et le dessin, les couleurs aussi, avec l'aide de votre fille Marie Barral. L'Intranquille Monsieur Pessoa aux éditions Dargo, ça sort demain. Merci beaucoup Nicolas d'être venu jusqu'ici dans l'Alpha 10-13 de Radio Alpha pour nous parler de cette superbe bande dessinée.
Merci à vous.